L'idée, si vous voulez, de ces conférences, c'est que on va essayer de comprendre ce qui est important pour un chemin de délivrance. Et parfois, on se dit, il suffit de recevoir une prière, et, un peu comme un truc magique. Et voilà. En fait, il s'agit bien de nous approcher de Dieu, de son alliance, et qui dit alliance, dit notre liberté. Donc, nous avons un travail à faire. Parce qu'ici, on n'est pas chez des magiciens qui auraient des pouvoirs, ou, vous voyez, des prières super efficaces. Ça, c'est de la magie, c'est pas la bonne adresse. On est bien d'accord. Ici, on va prier dans la foi, mais qui dit la foi dit notre liberté. Alors, on a vu que la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que une des conditions pour vivre une délivrance, quelle qu'elle soit, c'était d'abord la conversion. Alors, on est bien d'accord que celui qui nous sauve, celui qui nous délivre, c'est le Christ. C'est pas une espèce d'énergie, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le Christ qui nous délivre. Et qui dit, le Christ dit qu'il est tellement amoureux de chacun de nous, c'est vraiment le Christ, c'est vraiment l'époux de nos âmes, il est l'époux du cantique des cantiques. Il est complètement malade d'amour pour chacun d'entre nous, d'une façon totalement, on va dire, originale. On n'est pas aimé de la même façon, on est aimé d'une façon unique. Alors, il attend notre réponse, et ça, c'est notre conversion. On avait vu la dernière fois que, en fait, on a une façon d'aimer qui est, on croit aimer, mais on n'aime pas. Cet amour, on avait dit la dernière fois, c'est un amour très égocentrique. En grec, vous savez, il y a plusieurs mots pour dire l'amour. En français, il n'y en a qu'un seul. J'aime Dieu, j'aime la soupe, j'aime le chocolat, j'aime mon chien, j'aime la crème au marron. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis je t'aime, et puis un jour je te dis, je t'aime plus. Ça, c'est philotia. Je t'aime parce que tu me sers à quelque chose, t'es vachement agréable, et c'est un peu c'est l'amour du chat, vous savez, quand on se fait caresser dans le bon sens, j'aime. Mais quand c'est plus le bon sens, j'aime plus. Ça, c'est philotia. On est un peu là-dedans, un peu beaucoup, un peu passionnément. Alors, Dieu a du travail en nous, mais il ne va pas le faire sans nous. Il va transformer cette façon d'aimer en agapé. Je t'aime parce que c'est toi. Ça, c'est la conversion qui nécessite que nos cœurs soient tournés plus vers lui que vers le moi, moi, moi. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ça, c'est la première condition si nous voulons vivre une délivrance, quelle qu'elle soit. Si nous voulons vivre une délivrance, quelle qu'elle soit, je dis bien. La conversion, se convertir à Jésus. C'est lui qui est notre maître. Notre maître, notre roi, c'est lui qui dirige tout. Alors ça ne sera plus nos pensées. Vous savez, on a des conceptions, même religieuses, et on y tient. C'est faux. Il n'y a qu'une seule conception qu'on doit avoir, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Dieu seul. Saint Paul va dire, nous avons la pensée du Christ. Ce qui suppose que nous n'avons plus notre propre pensée égocentrique. Voilà, donc ça c'est le chemin intérieur. On va avoir un déménagement à faire à l'intérieur de nous-mêmes, du moi, 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 égocentrique, à cette autre partie de nous-mêmes. L'homme nouveau. Considérez, nous dit saint Paul, Colossiens 3:3, que vous êtes mort, et ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas ni ma maladie, ni mon péché. En bref, je ne suis pas mon vieil homme, mais je suis enfant de Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, on va passer à la deuxième étape pour vivre une réelle délivrance. Il y a un passage, j'allais dire, obligé, celui du pardon. Celui du pardon. Parce que le manque de pardon dans nos vies, effectivement, va nous lier. Alors, dans un premier temps, on va voir comment le manque de pardon nous lie et lie notre liberté. Et nous lie aussi avec des démons. D'accord ? Voilà, ça sera donc ce que nous allons voir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va voir ce qu'est le pardon en Dieu. Et dans un troisième temps, comment accueillir ce pardon, comment vivre le pardon. Voilà, alors on va commencer. Le manque de pardon, qu'est-ce que ça fait ? Vous savez, en français, on dit « je t'en veux ». Je t'en veux. Alors, si je t'en veux, c'est que j'ai toujours une relation avec toi. Et j'ai toujours une attente de toi. C'est toi qui m'as fait souffrir. Enfin, c'est ce que je pense. Ça peut être une fausse croyance. On est d'accord. Donc, je suis en attente. Et cette attente me relie à toi en permanence. Mais non seulement ça me relie à toi, mais ça me relie à tes démons à toi. D'accord ? Alors, je pense à cet homme qui avait été maltraité par son père dans son enfance. Un père souvent absent, il revenait complètement ivre, vous voyez le tableau, et il en voulait à son père, quelque part. Ça se comprend. Le père lui cassait la baraque tout le temps, la malédiction, t'es nul, etc. Puis cet homme devenu adulte avait plein de problèmes avec ses patrons. Et puis, il raconte un de ses problèmes. Il était dans une entreprise et ça marchait assez bien quand même. Puis son patron se décide d'aller dans son bureau pour le féliciter. Et figurez-vous qu'au lieu de le féliciter, quand il rentre dans le bureau, il se met à lui dire plein de choses négatives sur lui. Et il ressort sans comprendre ce qui lui est arrivé. Vous allez me croire ou non, mais ça, cet homme était toujours lié à des esprits d'agression, de destruction. Parce que comme il n'avait pas pardonné à son père, eh bien, il se trimballait aussi les démons qui étaient dans cette relation entre son père et lui. Est-ce que vous me suivez ? C'est très important de bien comprendre ça. Donc, je t'en veux, ça veut dire que j'ai toujours une relation avec toi, même des années après. Le problème, c'est que cette relation peut être inconsciente. Et inconsciemment, eh bien, on va avoir des attentes. On va s'attendre à ce que les choses ne marchent pas. Le père, encore une fois, un père, pardon pour les pères qui en prennent plein la figure ce matin. Un père, donc, était très très absent à la maison, et sa fille qui s'appelle Linda, c'est comme s'il la voyait pas, et il lui faisait très très rarement des compliments. Et en fait, cette femme, comme inconsciemment, s'attendait toujours à ce que les hommes lui fassent très peu de compliments. Et en fait, plus tard, donc, évidemment, un jour, elle s'est mariée, cette pauvre femme, et pareil, Son mari qui voulait lui faire des compliments, qui lui téléphone, bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne vient pas. Une attente, finalement, de ce même démon. D'accord ? Alors, on pourrait multiplier, évidemment, les exemples, mais comprenons bien que ce manque de pardon, je t'en veux, fait que nous restons liés à l'agresseur et à ses démons. Nous restons aussi liés à un démon de culpabilité, de colère. Alors ça, je parle du niveau spirituel, pas du niveau forcément psychologique, psychologie aussi, évidemment. On a des colères rentrées, etc. Et finalement, il va y avoir en nous toujours une tendance à la colère, à la culpabilité, voire à l'auto-culpabilité, l'auto-dévalorisation. Et finalement, un esprit victimal, de victimisation. On va finir par se complaire, entre guillemets, même inconsciemment, dans une attente que les choses iront mal. Je suis la victime. Et comme je suis la victime, et que j'ai cette attente, je donne prise, encore une fois, au démon qui était sur cette mauvaise relation. Je vais très vite, sans doute on pourrait dire plein d'autres choses. Donc, si on pardonne, ça veut dire qu'on va couper spirituellement la mauvaise relation avec celui ou celle qui nous a fait souffrir. Donc, c'est une coupure entre deux personnes. C'est aussi une coupure entre nous-mêmes et des démons. Les démons de cette personne, les démons de notre relation. Et éventuellement couper une malédiction de péché. Par exemple, assez souvent, malheureusement, nous souffrons d'avoir été violentés sexuellement quand nous étions enfants. De l'importance de ce pardon qui n'est pas, attention, le pardon n'est pas un truc du style « c'était pas grave ». C'est pas une excuse. Le pardon va toucher ce qui n'est pas excusable. Alors, on sait que ceux qui ont été violés dans leur enfance peuvent être encore liés à un esprit d'intrusion. Soit c'est le viol, c'est-à-dire qu'ils vont se faire encore violer, ou alors c'est actif, ils vont devenir violeurs, ou alors il y a un esprit d'intrusion. Ils attirent, entre guillemets, des esprits d'intrusion. C'est-à-dire on va se mêler chez vous de ce qui ne concerne personne, mais que vous. Comprenez ? Voilà. L'histoire de cet homme qui raconte son expérience au moment des camps de concentration. On est en 1945 et le camp est en train d'être libéré. Et l'officier américain fait venir un détenu qui quand même avait bon œil. Il était un peu mince, un peu maigre, il avait bon œil. Et celui-là, pas trop amoché. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il apprend que cet homme était là depuis le début du camp de concentration. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Il était dans le ghetto de Varsovie lorsque les nazis sont arrivés. Ils ont fait descendre toute sa famille. Il avait sa femme et ses 6 enfants. alignée contre le mur. Et avant de tirer, ils se sont aperçus qu'il parlait plusieurs langues. C'est un avocat. Donc, ils lui ont dit, toi, on te garde. Et devant lui, ils ont descendu sa femme et ses 6 enfants. Alors, lui qui était avocat, il avait remarqué que ce qui était le plus terrible, c'était la haine. La haine en réaction à l'horreur. Il avait remarqué que la haine détruisait davantage que l'horreur elle-même. Alors il a fait un serment. Il a dit, à partir de ce jour-là, j'aimerai tout le monde. Il était juif, et finalement il était chrétien, dans l'âme. Ne donnons pas à l'ennemi le plaisir de notre haine, de notre ressentiment. Lorsque Jésus dit « Priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis », il nous donne une clé de vie. Il ne nous fait pas une leçon morale. Il nous donne une clé de vie. Alors, comment ça se passe, le pardon ? Le pardon, c'est le don au-dessus de tout don. Et c'est le don de Jésus lui-même pour essayer de comprendre combien le pardon est quelque chose de vital. Évidemment, il nous faut relire la Bible et comprendre que le péché n'est pas à confondre avec une faute morale. Vous voyez, le péché d'union et tous ces trucs-là. Oublions ça. Le péché est une coupure avec Dieu, qui lui seul est la source de la vie. Donc le péché nous établit d'emblée dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit saint Paul, Romains 6. Donc ça, c'est notre drame, c'est le drame de l'humanité, séparée de Dieu par le péché originel. Et donc c'est une question pour nous de vie ou de mort. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, quelle est la stratégie de Dieu pour nous faire, pour nous réconcilier avec lui ? Sa stratégie, c'est de mettre à part un peuple, le peuple juif. Dans ce peuple, il met à part une tribu, celui de la tribu de Lévi. Dans cette tribu, il met à part un individu, un homme, le grand prêtre. Et il amène son peuple sur une terre, parce que dans la Bible, la terre, elle est consacrée forcément. La terre promise, c'est un lieu consacré. Donc, la terre promise, c'est le lieu de Dieu. Et dans cette terre, il met à part un lieu. C'est le temple. Et dans le temple, il met à part un lieu. C'est le Saint des Saints. Et une fois par an, le prêtre, le grand prêtre, va rentrer dans le Saint des Saints. On raconte qu'il y avait une ficelle qu'il avait sur son corps, au cas où il meurt, on tirerait son corps. Mais personne n'a le droit de rentrer dans le Saint des Saints en présence de Dieu. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et là, c'est une question de vie ou de mort, parce que qu'est-ce qu'il va faire dans le Saint des Saints ? Il va répandre le sang. Le sang des victimes. Et il va faire monter vers Dieu la victime. Comment il fait ? Il la brûle entièrement. Victime d'Holocauste. En hébreu, victime, ça veut dire olé, ola, je ne me rappelle plus très bien, mais ça veut dire ce qui monte. La victime, c'est ce qui va monter d'ici à là-haut. Vous voyez, ce n'est pas très victimal en fait. Alors, comment faire monter symboliquement ces animaux ? Eh bien, on les fait brûler. et cette fumée va monter. Le feu fait monter cette fumée vers le haut. Est-ce que Dieu va agréer ce sacrifice qui vient nous réconcilier? Alors, là, on fait une constatation qui est très importante pour nous. C'est qu'il n'y a pas d'expiation sans une libation de sang. Je répète, il n'y a pas de pardon sans une effusion de sang. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une question de vie ou de mort. Pour être sauvé du péché, qui est une forme de mort spirituelle, parce qu'on a pactisé avec un démon de péché, il nous faut le sang. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, en fait, le sang des animaux n'était pas forcément efficace. Il fallait toujours recommencer, et tous les ans, à Yom Kippour. Alors, c'est intéressant de savoir, en hébreu, le mot Kippour. Kippour. Qui a donné Kapara. Et le Kapara, c'est en fait, vous savez, cette espèce de goudron, de couvercle. En fait, c'est plutôt le couvercle du Saint des Saints, Kapara. C'est ce lieu où on va verser le sang. Et aussi, il y a un autre, on va donc recouvrir l'arche. C'est une plaque d'or. C'était le trône de Dieu. Quand on a volé l'arche, quand l'arche a été perdue, on a remis dans le temple juste une plaque d'or, symbolique. C'est là où Dieu va s'asseoir pour juger. Et si vous êtes allé à Jérusalem au moment des fêtes d'automne, c'est très très fort. Parce qu'au moment de Rosh Hashanah, c'est en septembre, c'est toute la création qui passe devant Dieu. Puis on imagine que Dieu, le roi des rois, va dire « toi oui, toi non ». 10 jours après, c'est 10 jours terribles, on va prier, et c'est Yom Kippour, les expiations. Voilà. Alors, le Kapara, c'est aussi cette couche, ce qui recouvre, et on se rappelle de cette couche de goudron avec lequel on a recouvert le berceau de Moïse avant de le mettre sur les eaux. C'est vital. S'il n'y a pas ce goudron, s'il n'y a pas ce couvercle, cette couverture, on coule dans les eaux. Vous voyez, l'Ancien Testament nous prépare à comprendre pourquoi il fallait, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme soit d'abord crucifié. Ne fallait-il pas? On se rappelle du discours de Jésus aux pèlerins d'Emmaüs. Il a versé son sang. Voici mon sang, dit Jésus, le jeudi saint, de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de rémission. On est mort spirituellement. Et où est-ce qu'on va quand on meurt? On ne va pas au ciel. Non. On va dans les enfers. Il est descendu aux enfers. On ne va pas forcément en enfer, mais on va dans les enfers. Séparation éternelle de Dieu. Alors, Jésus est véritablement ce serviteur souffrant qui, par ses blessures, va nous guérir, Isaïe 53.
Verset 5. Le châtiment qui me donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Hébreux 5 nous dit que Jésus, au jour de sa passion, il a offert à Dieu, dans les larmes et des supplications, ces prières qui pouvaient le sauver, lui, de la mort, et nous avec. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, et nous avec. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Puisque le Père l'a ressuscité, ça veut dire que son sacrifice, il est agréé. Il est agréé par le Père. Et sa prière aussi. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est rentré dans cette tente plus parfaite, nous dit Hébreux 10, Hébreux 9, Hébreux 10. Voilà, cette tente qui est en fait son corps ressuscité. Et c'est le corps de l'Église, le Christ total. Voilà. Jésus sur la croix est apparemment passif, mais il va dire à Sainte Catherine de Sienne, c'est l'amour qui me tient, ce ne sont pas les clous. Alors, il est plus qu'actif, il est très actif sur la croix. Parce que par la puissance de son amour, il n'y a pas de plus grand amour. Il va transformer un meurtre injuste en sacrifice de bonne odeur qui nous sauve. Lui seul est la victime parfaite. Vous savez qu'au temple, on n'offrait que des victimes parfaites. Vous connaissez le livre des Maccabées ? Pour empêcher le grand prêtre d'être grand prêtre et d'offrir des sacrifices, on va lui arracher l'oreille. Parce que le grand prêtre devait être aussi à l'image du premier Adam, je veux dire, avant la chute. Être un homme parfait, sans aucun défaut. On lui arrache l'oreille, il ne peut plus être prêtre. Ce prêtre-là est parfait, oui, il est le Fils de Dieu. C'est un prêtre, oui, parce qu'il offre lui seul pour offrir une victime parfaite. Et la victime, c'est lui. Et l'autel, vous l'avez deviné, c'est la croix. Alors, c'est là que se produit ce miracle, que ce qui était séparé va être uni encore, de nouveau. Et ça, ça s'appelle le pardon. Par le pardon, ce qui était séparé sera uni à Dieu. Et comment ? Eh bien, par le sang. Par le sang de qui ? Par le sang de Jésus. Et par son sang, il nous réconcilie avec le Père, et c'est pas fini parce qu'après il y a la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Nous recevons l'Esprit du Père qui va crier en nous « Abba, Père ». Ça, c'est le but de notre vie. Vous connaissez Saint Séraphin de Sarov, ce grand saint de l'orthodoxie russe, qui disait « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit ». C'est quoi un homme, en d'autres termes, c'est quoi un homme, une femme accomplie ? C'est un homme, une femme remplie du Saint-Esprit, qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Et là, il est vraiment libre, comme dit Jésus. Le Saint-Esprit vous rendra libre. Oui, libre de nos erreurs, libre de nos péchés, libre de nos tendances pécheresses. Et le soir de la résurrection, Jésus souffle sur ses disciples et il leur donne le pouvoir de la confession. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Mais c'est intéressant de voir que juste avant, il dit « la paix soit avec vous ». Et quand Dieu dit « cela est », la paix, shalom en hébreu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire plénitude, ça veut dire harmonie. Harmonie, oui, parce qu'elle est retrouvée, elle était perdue. Nous avions perdu la relation en Dieu. Elle était blessée par nos péchés. Et là, elle est retrouvée. Saint Paul dira, il n'y a plus d'hommes, de femmes, de juifs, de païens, qu'un seul en Christ. Et puis, cette plénitude, oui, parce qu'il n'y a pas de plus grande grâce que de recevoir le Saint-Esprit. Si nous cherchons le bonheur, demandons le Saint-Esprit. Plénitude de joie, nous dit le psaume 15, devant ta face, plénitude de joie. Oui, quand plus rien ne nous sépare de Dieu. Plénitude. Alors, c'est maintenant une deuxième étape dans notre exposé. Le pardon alors, qui est ce rétablissement de ce courant vital entre Dieu et nous, et finalement entre nous et les autres, parce que nous sommes appelés nous-mêmes à être des ministres du Christ. Je pense, moi, que finalement, il n'y a pas que les apôtres qui ont mission de transmettre le pardon de Dieu. Et si jamais, et je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, et si jamais nous avions, nous, le pouvoir, entre guillemets, par notre foi, parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire porteurs du Christ, et si jamais nous avions le pouvoir de délier ou de lier, vous vous rendez compte? Quelle responsabilité! Si l'autre n'est pas délié, parce que je lui en veux, quel enfer! Pour lui aussi. Et pour moi, on l'a dit tout à l'heure. Et quel drôle de purgatoire, s'il meurt, il va faire après. Vous pensez qu'il va monter vers Dieu? Moi, je ne suis pas sûr. Bon, je n'ai pas été vérifié. Mais l'importance de délier par notre faculté de pardonner. Alors, c'est vrai que par notre baptême, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est une plongée dans le Christ, baptizein en grec. Ça veut dire plonger. Donc c'est plonger dans le Christ. Si je suis baptisé, je suis comme une éponge engloutie dans un torrent d'eau vive. Ça, c'est le baptême. Alors j'espère que toute notre vie, ce torrent de vie, va développer toutes nos capacités. Parce que les éponges, quand elles sont ratatinées, vous voyez ce que je veux dire, ne servent pas à grand-chose. Et nous, si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, alors nous sommes assez recroquevillés sur nos microcosmes. Voilà. Alors, par le baptême et par notre vie en Dieu, il va se passer un miracle. nous allons devenir enfants de Dieu. Ça, c'est le miracle. Alors, on a tellement l'habitude d'entendre ça. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui n'est pas baptisé est-il enfant de Dieu selon vous? Eh bien, moi, je dirais non. Quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Christ, n'est pas enfant de Dieu. Il est créature de Dieu. Vous voyez la différence? Il n'est pas enfant de Dieu. Mais il va devenir enfant de Dieu, mais si il est d'accord. On ne peut pas lui imposer d'être enfant de Dieu. Rentre dans la maison, s'il te plaît, rentre dans la maison. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est toujours une proposition. Est-ce que tu acceptes mon amour? C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Jésus nous dit. Alors, c'est vrai que si nous nous laissons configurer par Jésus, par sa grâce, alors nous allons pouvoir accueillir le commandement nouveau. Il y avait un commandement ancien. Vous vous rappelez du commandement ancien ? En deux parties. Les deux commandements sont similaires, nous dit Jésus. Première partie, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment ? De tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Deuxième commandement, ton prochain comme toi-même, Lévitique 19, et le premier c'est Deutéronome 6. D'accord. Mais Jésus va plus loin, il va dire, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, est-ce que vous pensez que Jésus retient des rancunes quand il aime? Est-ce que vous pensez que Jésus a du mal à pardonner? Non. Alors, il nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Vous voyez le travail? Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour appartenir à Jésus? Qu'est-ce que vous dites? Ouais, mais enfin, je voudrais avoir un peu de temps, c'est encore un peu tôt pour pardonner, tout ça. Bon, alors, c'est un commandement. C'est un commandement, Matthieu 5, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Écoutez bien la suite. Afin de devenir fils de votre Père, qui est aux cieux. Les chiens ne font pas des chats. Et un enfant de Dieu, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu, par participation. Première épître de Saint-Pierre. D'accord ? Donc, si on veut être enfant de Dieu, pardonnons. Vous êtes toujours d'accord ? Tout le monde suit ? Yes, pas si facile, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Matthieu 6, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Et ça, on le dit tous les jours, ou presque la bouche en cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, cette façon d'éviter nos prières. Et puis, on ne sait plus ce qu'on dit. Amen. Waouh. Stop. On va essayer quand même de prier le Notre Père. Alors, on pourrait insister lourdement. Mais l'idée, c'est ça. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, normal. Si tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Et donc, ça veut dire que tu vas décider aussi de ressembler à Dieu. Si tu ne décides pas de pardonner, tu ne pardonneras pas. C'est une décision. D'abord, et c'est une conversion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Philippiens 3.9. Ouais, Philippiens 3.9, vraiment, c'est une parole qui a bouleversé ma vie aussi, parce que je vais vous la lire. va commencer à 3 et 8. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage de Christ. Écoutez bien. Et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. J'en déduis, si j'ai bien entendu, qu'il y a deux justices. Il y a notre justice humaine et nous avons été au catéchisme un jour ou l'autre, donc on a assimilé les commandements de Dieu. Bon, d'accord. Donc on sait à peu près où est le mal, où est le bien, enfin, j'espère. Mais nous avons inscrit en nous-mêmes une forme de justice qui n'est pas celle de Dieu. Au mieux, c'est la loi du talion. C'est-à-dire, si tu me casses une dent, j'espère que tu ne feras pas ça, je ne vais pas t'éclater la figure. Je vais juste te casser une dent. Ça marche normal, non ? Enfin, c'est humain. Voilà. Donc, c'est la justice de compensation. Alors, vous comprenez que quand c'est des trucs plus graves que ça, l'esprit de haine, de vengeance et tout ça, ça nous emmène plutôt vers le bas. Alors, bonne nouvelle, au lieu de notre justice, œil pour œil, dent pour dent, Jésus nous dit, vous avez entendu ça, eh bien non, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père. Alors, il y a une autre justice, qui est bien plus efficace que mon petit point dans ta figure. Si j'étais en colère contre toi, ce qui n'est pas le cas. Une justice bien plus efficace, c'est celle